Et j'avais cette pensée et je voulais la partager avec vous ce matin. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. Vous êtes d'accord de dire que c'est un psaume qui est merveilleux? Ouais, on peut dire ça de toute la parole de Dieu, mais il y a des textes particulièrement qui interpellent nos cœurs et qui vibrent d'une émotion particulière. Et on pourrait se dire, quand on lit pour la première fois ce psaume, comme moi je me suis dit, il exagère un petit peu celui qui écrit ça. Il est un petit peu marseillais sur les bords. Il exagère en tantinet. Si une armée se dressait contre moi, je n'aurais aucune crainte. C'est quand même fort, cette parole. Et puis quand on regarde de qui ça provient, David, en plus inspiré par le Saint-Esprit, qui a dit cette parole. Et quand on sait ce qu'il s'est passé dans la vie de David, qui a été poursuivi pendant quelque temps par une armée tout entière, le roi Saül qui était jaloux de lui, il a poursuivi David. Et David pourtant est resté fidèle, est resté droit, est resté dans la paix parce qu'il s'est confié dans le Seigneur. Le but de ce psaume, quand David écrit ce chant, c'est un chant hein, pas à l'origine, alors, j'aimerais écouter la mélodie et entendre en hébreu comment ça donne. En tout cas, on a une idée en lisant ce texte de l'émotion qui est dedans. Mais le but de ce texte, c'est de montrer que l'on peut être plein de confiance malgré les batailles, malgré les combats. Ça vous intéresse ce programme-là? Être plein de confiance, être dans l'assurance, être dans le repos même au milieu des combats et des difficultés et des problèmes. Parce que quand on considère ce texte, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, David y parle des gens qui sont contre moi, ça revient de nombreuses fois. Des ennemis contre moi, une guerre contre moi, etc. Des gens qui s'élèvent contre moi. Et malgré cela, je suis plein de confiance. Et c'est ce que le programme que Dieu à pour chacun de nous ce matin. Amen. Amen. Ça veut dire qu'on est d'accord. Oui Seigneur, je vais vivre ce programme-là. On pourrait le résumer en trois points bien particuliers qui nous permettent de grandir dans la confiance. C'est le fait d'être convaincu, la conviction, la communion que nous avons avec Dieu et la consécration. Et je voudrais commencer par donc le premier point, la conviction. Notre confiance en Dieu grandit quand nous avons une pleine conviction. Mais quelle conviction? C'est pas la conviction de savoir qui va être le prochain président ou de savoir qui va succéder à Usain Bolt, si on veut rester dans l'actualité. C'est tant mieux si vous avez une conviction par rapport à ce sujet. Tant mieux si vous suivez de près la politique ou le sport et vous savez qui va prendre la place. Non, c'est bien. Mais c'est pas cette conviction-là dont il est question, qui nous permet de grandir dans la confiance malgré les batailles. Parce que peu importe le président qu'il y aura en France, c'est pas ça qui va nous donner beaucoup d'assurance. Peu importe qui va succéder à Usain Bolt, c'est pas ça qui va nous donner de l'assurance dans nos combats personnels. La conviction en question, la conviction de David qu'il partage, c'est que Dieu est plus grand que n'importe lequel de ces combats. Aussi soit grand soit-il, Dieu est plus grand. Ça, c'est la conviction que l'on doit avoir. Dieu est le victorieux. Dieu nous rend plus que vainqueurs. Mais ça veut dire déjà dans un premier temps qu'il faut accepter qu'il y a des combats. Des fois, on le sait, on le vit, on est éprouvé, mais on refuse. On se dit non, je suis enfant de Dieu, j'ai pas le droit d'avoir des combats, j'ai pas le droit de passer par la maladie, j'ai pas le droit de connaître un temps de dépression peut-être. Je suis enfant de Dieu, j'ai pas le droit de... Et des fois, on se trompe. Il y a des combats, il y a des difficultés, c'est ce que David est en train de dire. Mais au milieu de ces combats et de ces difficultés, si nous avons la conviction que Dieu est plus grand, alors notre confiance va grandir. Et il le dit tellement avec des mots forts, des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Vous imaginez l'image? Est-ce qu'il y avait des cannibales à l'époque qui étaient là en train de le poursuivre? C'est pas ça. Mais ça exprime quand même la gravité de la situation. Et puis, souvenez-vous, quand David a confronté Goliath, la parole que Goliath lui a dit, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec un bâton ?» Et après l'avoir maudit de ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai la chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Vous voyez que ça se rapproche des ennemis, des méchants qui s'élèvent pour dévorer notre chair. Bien sûr, là c'est une image pour notre vie spirituelle, où il y a des ennemis, il y a des fois des ennemis physiques, il y a surtout un ennemi spirituel qui est là pour essayer de détruire notre vie, pour essayer de nous amener plus bas que terre. Mais dans ces situations-là, David, il a eu confiance, il n'a pas eu peur. David, il a connu ses combats avec des hommes qui étaient méchants envers lui, alors que lui n'avait rien fait. Il n'avait fait qu'obéir à la parole de Dieu, et pourtant Saül, avec cette jalousie, son orgueil, il a voulu le mettre à mort. Mais nous devons laisser dans ces moments-là le Seigneur prendre la place dans nos vies. Vous savez qu'il y a beaucoup de combats sur la terre, mais j'en ai retenu trois principaux, trois ennemis. L'ennemi de nos âmes, avec ses ruses, qui essaye de nous faire tomber. Il y a le monde qui est là, avec ses séductions, qui essaye de nous faire dévier de la route. Et puis, il y a aussi un ennemi qu'on oublie souvent, c'est notre chair. Notre nature pécheresse, avec ses convoitises. C'est pas parce qu'on est nouveau-né dans le Seigneur, c'est pas parce qu'on est né de nouveau aussi dans le Seigneur, que ça a totalement disparu, ces choses-là. C'est toujours présent. Et jour après jour, il y a ce combat de laisser la vie de Dieu couler dans notre cœur afin que nous puissions marcher et avancer sur le chemin. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et c'est intéressant de réaliser que pour chacun de ces ennemis-là, à la croix, le Seigneur, il a tout réglé. Pour les trois. Les trois ont été vaincus quand il a donné sa vie sur le bois de la croix. La conviction que nous devons avoir, qui nous permet de grandir dans la confiance, c'est que l'épreuve, elle a la taille que Dieu permet. Regardez David face à Goliath. Goliath, il faisait plus de 3 mètres de haut. Et c'est Dieu qui a permis que David puisse rencontrer Goliath à ce moment-là. C'est Dieu qui a permis que ce jeune garçon, on ne sait pas quelle taille il avait, on imagine 1m80 pour être dans la moyenne, mais imaginez quelqu'un d'1m80 face à quelqu'un de plus de 3 mètres. Le combat est totalement illégal. Mais David avait cette conviction que la taille du géant, c'était pas un problème. Parce qu'il avait Dieu qui était dans son camp. Et des fois, nous, on est là en train de sortir notre mètre spirituel pour mesurer combien notre épreuve, elle est douloureuse. Et oui, il y a des épreuves douloureuses. Ça aurait été tellement mieux que David rencontre un homme qui avait sa taille. Ça aurait été plus simple. Mais Dieu permet des fois qu'il y ait des géants sur notre chemin qui soient là. Mais Dieu sait que nous pouvons le vaincre avec sa force à lui. Qui était le mieux indiqué dans le peuple d'Israël pour combattre un géant? Vous savez qui c'était? Saül. Saül, il dépassait tous les gens du peuple d'une tête. Il était plus grand que tous les autres. C'est en particulier pour ça qu'il avait été choisi et parce qu'il avait un cœur humble. Et c'était lui le mieux indiqué. En plus, il avait une armure imposante. C'est pour ça que quand il a voulu que David mette son armure, ça ne s'est pas bien passé parce qu'elle était beaucoup trop grande et elle pesait. Mais David, lui, il avait une autre armure. Et l'armure qu'il nous faut revêtir jour après jour, l'armure de Dieu. Le bouclier de la foi, le casque du salut. Il avait cette armure-là, il avait la vérité comme ceinture, etc. Et il avait ce zèle que donne l'évangile de paix, David. Et quand il est allé au combat, parce qu'il avait cette conviction que le géant qui était là, Dieu avait permis que ça se passe comme ça, et parce qu'il avait été interpellé par ses paroles, alors il s'est avancé pour combattre. Pour chaque combat, Dieu nous donne la mesure de force nécessaire pour affronter le combat. Vous le croyez ça? Pour que chaque combat, Dieu nous donne exactement, il va jamais en manquer avec le Seigneur. Il y a toujours ce qu'il faut. Aucune tentation, aucune épreuve, on pourrait dire aussi aucun combat ne vous est survenu qui n'ait été humain. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation ou l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est marqué ou c'est pas marqué ça? C'est moi qui viens de l'inventer avec mon imagination fertile à l'instant, ou c'est la parole de Dieu qui a été écrite depuis des milliers d'années déjà? C'est une promesse que le Seigneur nous a donnée. Oui. Si c'est une promesse du Seigneur, nous devons y mettre notre foi, que nous puissions grandir dans la confiance du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous connaissons des temps d'inquiétude, d'angoisse, de peur? Pourquoi est-ce que nous connaissons des temps comme ça, où nous sommes troublés dans l'intérieur de notre vie? Parce que souvent, on cherche à combattre avec nos propres forces. On cherche à combattre avec nos qualités humaines. Et à un moment donné, on se rend compte que ça ne marche pas. Si David s'était appuyé sur sa force à lui, sur son expérience de soldat, s'il s'était appuyé sur son équipement même, le combat était totalement déséquilibré. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait confiance à Dieu. Imaginez un enfant de 4 ans qui combat Teddy Riner. Vous voyez qui c'est Teddy Riner? Le colosse français qui a gagné la médaille d'or là, au judo. De plus de, je sais plus, 100 kilos. Voilà. Face à un petit enfant, vous allez parier pour qui? Alors? Normalement, il faut pas parier, hein, même. C'était ça la réponse. En tout cas, on sait que le combat est totalement illégal, et c'est ce qui se passait si on regarde les choses d'un point de vue humain. Un colosse face à un jeune adolescent qui était là, ce combat est totalement illégal. Mais ce jeune homme qui était là, il avait compris que si Dieu avait permis qu'il y ait un géant de cette taille qui soit devant lui et qu'il était en train d'insulter le nom de Dieu, alors il allait lui donner la force nécessaire pour l'affronter et pour pouvoir remporter la victoire. C'est cette parole qui ressort dans ce psaume: l'Éternel est le soutien de ma vie, l'Éternel est la protection, l'Éternel est la force de ma vie. Est-ce que vous croyez cette simple parole? L'Éternel est le soutien de ma vie. Ma vie, quels que soient les combats qu'elle rencontre, elle peut être soutenue par Dieu, parce qu'il est tout puissant. Comment avoir la faveur de Dieu? Parce que c'est ça qui a fait la différence. Dans le cas de David, il faut que l'Éternel soit notre lumière, celui qui éclaire notre esprit, celui qui nous permet de discerner l'enjeu du combat. Vous savez, il y a des combats dont l'enjeu il n'est pas spirituel. Il y a des combats où, comme Saül qui s'acharne à poursuivre David, c'était pas spirituel ça, c'était la chair qui s'exprimait. Et il y a des combats qui sont là des fois dans nos vies, où au lieu d'essayer de combattre et de nous défendre, il faut laisser le Seigneur faire les choses. Des fois on nous accuse faussement, peut-être ça vous est arrivé, moi ça m'est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez à tout prix de vous justifier pour montrer combien vous êtes saint, combien vous êtes intègre? Ou est-ce que, bon bien sûr ça veut pas dire qu'il faut tout laisser tomber, faut laisser dire les gens n'importe quoi, mais des fois il faut, ça sert à rien de lutter. Faut dire: Seigneur, je te fais confiance, c'est toi qui vas régler. Des fois il y a des gens qui s'acharnent et qui essayent de se défendre, qui essayent de se justifier, de dire combien ils ont raison, plutôt que de dire: Seigneur, occupe-toi de la situation, je remets tout entre tes mains. Mais il y a des fois aussi où il y a des combats où il faut se lever, où il faut prendre position, parce que l'enjeu, à la lumière du Seigneur, on se rend compte que l'enjeu, il est spirituel. Et David, quand il a regardé la situation, alors il a vu ce géant qui se moquait de Dieu, il se moquait du peuple de Dieu, il se moquait de ce pays-là, il voulait voler le pays que Dieu avait donné à son peuple, avait fait la promesse à Abraham, etc. David, il avait compris qu'il y avait tout ça qui était en jeu. Et alors il a pris position. Quand on se rend compte que le combat, il est spirituel, on n'a pas à combattre contre les gens. Hein, l'apôtre, il le dit, c'est pas contre la chair et le sang. Ça sera jamais contre la chair et le sang. Contrairement à des fausses philosophies qui sont en train de d'ébranler la France au travers des attentats qu'il y a, on ne combat pas contre la chair et le sang. Ceux qui font ça, ils ont un faux Dieu. Il faut le dire clair et net. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous parle de paix, qui nous parle d'amour, qui nous parle de grâce. Et il veut que nous combattions avec ces armes-là de l'amour, de la paix, de la grâce, du pardon, de la bienveillance envers le prochain. C'est ces armes qui sont capables d'ébranler le ciel et de permettre que les choses se déroulent comme Dieu l'a prévu. Mais il faut prendre position. David, souvenez-vous de ce qu'il a dit à ce Philistin. « Tu marches contre moi. » Avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire n'appartient pas à nous, elle appartient à l'Éternel. Bien sûr, si nous appartenons à l'Éternel, alors nous avons la victoire. C'est aussi simple que ça. Et nous devons nous efforcer que l'Éternel soit notre salut, que l'Éternel soit notre force, que l'Éternel soit notre lumière qui nous montre si on a besoin d'insister dans ce combat ou si on a besoin de laisser tomber et de laisser Dieu faire ou si on a besoin de prendre position. Là, à un moment donné, personne bougeait dans le camp d'Israël, lui seul, un petit jeune homme, avec sa petite fronde, avec un petit caillou. Il a terrassé le géant parce qu'il y avait la faveur de Dieu sur sa vie. Et justement, le second point qui nous permet de grandir dans la confiance malgré les combats, c'est cette communion. Notre confiance en Dieu grandit quand nous veillons sur notre communion avec Dieu. Quand nous avons ces instants dans le lieu secret. Quelle est la chose que vous désirez le plus? J'aimerais bien faire un sondage ce matin, mais je ne vais pas le faire. Pour vous demander, qu'est-ce que vous désirez le plus? Ah, moi j'aimerais tellement recevoir une forte somme d'argent. Ah, moi je voudrais me marier. Moi je voudrais avoir un enfant. Moi je voudrais ceci ou cela, une belle voiture. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut sortir de cette question? Mais voilà, si on avait posé la question à David, voilà la réponse qu'il aurait donnée. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison. Est-ce que c'est pas quelque chose qui nous interpelle? Habiter toute notre vie dans la maison de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que David allait faire ses bagages pour aller habiter sous la tente, là où il y avait ce qui allait devenir par la suite le temple de Dieu, le sanctuaire, le tabernacle, c'est là que... Non. Mais il avait compris cette vérité spirituelle que nous avons besoin de rentrer dans les sanctuaires de Dieu de manière personnelle. C'est pas quand on vient à l'église qu'on le fait, on le fait un petit peu quand on vient à l'église, mais c'est surtout quand on est dans notre chambre, tout seul, que les combats sont là, que le ciel est noir, que il y a la pluie qui tombe dehors, et que malgré tout, on choisit de s'approcher de Dieu. Je voudrais habiter toute ma vie. Combien on est bien quand on est dans la paix de Dieu, malgré les circonstances. Ça me fait penser à cette image. Vous savez, un jour, un homme avait fait un concours pour qu'on lui donne qu'on fasse la plus belle peinture pour représenter la paix. Et donc, il y a toutes sortes d'artistes qui sont venus. Ils ont commencé à peindre de magnifiques paysages. Il y en a un en particulier, un beau lac dont l'eau ne bougeait pas, ce qu'il faut refléter le ciel. Avec le soleil qui était là, c'était merveilleux. Un petit troupeau de moutons qui venait boire à la source. On entendait presque les oiseaux chanter et l'eau qui bougeait un petit peu. Et les gens, ils étaient éblouis, ils disaient, mais à tous les coups, c'est celui-là qui représente la paix le mieux. Et puis, le juge, il va voir un deuxième tableau. Et là, le tableau, à première vue, ça représente pas du tout la paix. Un gros nuage noir qui est là, l'orage, la foudre, une grosse cascade qui est en train de s'écouler. On entend presque le bruit de l'eau qui tombe. On entend au loin le murmure, le grondement des tonnerres. Et les gens me disent, mais ça représente pas la paix du tout. Et puis, en s'approchant, on remarque un petit détail sur la falaise. Il y a une branche qui dépasse. Il y a une petite branche et un petit nid qui est là. Et dans ce nid, il y a un oiseau qui est en train de couver ses œufs. Malgré l'orage, malgré la cascade, malgré le tonnerre, malgré tout ça, cet oiseau, il est dans la paix. Et c'est ce tableau qui a gagné. parce que c'est en fait, ça réalise vraiment ce que nous vivons. Qu'il y a des combats, il y a des batailles, mais Dieu veut que nous soyons dans la paix. Et là, quand nous marchons dans la communion avec le Seigneur, quand nous faisons ce qu'il faut pour passer du temps devant Dieu, pour laisser sa parole nous faire du bien, alors c'est ça qui se passe. Notre confiance en Dieu, elle grandit. Et notre peur, elle commence à partir. Et c'est pour ça qu'on peut dire avec David, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Peu importe le combat, peu importe l'épreuve, je sais que Dieu me réserve un haut lieu où je vais pouvoir m'élever par rapport à mes ennemis, par rapport à ce qui me dérange, par rapport aux dangers qui sont là. Je sais que le Seigneur me soutient. Pourquoi est-ce que David voulait passer sa vie dans la maison de l'Éternel? Est-ce que c'était pour lui demander continuellement quelque chose? Vous savez, des fois on peut venir auprès de Dieu en croyant que Dieu est un distributeur automatique de bénédictions. Et seulement ça. Bien sûr que Dieu est un Dieu qui bénit. Bien sûr, c'est une vérité de la parole. Mais si on cherche Dieu que pour ça, eh ben on passe à côté du plan de Dieu. On fait une recherche de Dieu égoïste. David avait compris que pour être béni et pour passer du temps devant Dieu, il fallait venir dans ce but de contempler la magnificence de l'Éternel, admirer son temple. On ne peut pas se lasser de la présence de Dieu. Si on se lasse de la présence de Dieu, c'est qu'en fait, on ne regarde plus à la présence de Dieu. C'est aussi simple que ça. Ça peut arriver des moments où on est fatigué, des moments où on en a marre de prier. Ça arrive à tout le monde, ces moments-là. Mais pourquoi ça se passe? Parce qu'on a regardé plus longtemps à l'épreuve qu'à Dieu. Si on reste dans le lieu secret de notre chambre et qu'on dit, Seigneur, je veux te contempler à toi. Je veux grandir dans la connaissance de qui tu es, toi, de grandir dans le discernement que tu es plein d'amour, plein de grâce, que tu es au-dessus de mon épreuve. Si on regarde à l'Éternel de cette manière, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, notre foi, elle grandit automatiquement. Mais si on regarde à côté, la foi, elle diminue. C'est comme si on essayait de contempler le ciel étoilé et qu'on commençait à compter les étoiles. Au début, on le fait avec ce qu'on voit, donc il y en a déjà pas mal, s'il y a pas la lune qui est là. On arrive à en compter quelques-unes, et puis on commence à sortir le télescope, et on se rend compte qu'il y en a encore davantage. Et puis, on a fini de compter avec le télescope, alors je sais pas combien de temps ça prendrait, hein. Mais imaginons, alors on envoie un satellite, parce qu'on a plein de moyens, on envoie carrément un satellite dans le ciel, qui est en train de prendre des photos très précises. Et là, on se rend compte qu'il y en a encore davantage. Voilà ce qui se passe quand on est dans la communion de Dieu, et qu'on est en train de contempler notre Dieu. Alors, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau dans sa présence. Tous les jours, il y a quelque chose de frais, quelque chose de bon, quelque chose qui fait du bien. Tous les jours, ça se passe comme ça, quand on est dans la présence du Seigneur. Parce que notre Dieu est infini. Comme il y a une infinité d'étoiles dans notre univers, notre Dieu est encore plus grand, puisque c'est lui qui a créé tout ça. Et vous croyez qu'on peut se lasser de sa présence? Oh, si on se lasse, c'est que c'est nous qui ne faisons pas ce qu'il faut. Parce qu'il est un Dieu de renouveau, un Dieu qui nous fait du bien. Et combien ça fait du bien en lisant la Bible, d'aller dans telle vérité, de se rendre compte que Dieu est justement un Dieu de paix, qu'il est là pour nous donner sa paix. Et puis on lit un autre passage et là on se rend compte que Dieu est un Dieu de grâce. Moi j'ai cette image quand je lis la parole de Dieu, que c'est comme un diamant aux 1000 facettes. Et on pourrait même dire 10 000 facettes. On est en train de regarder, contempler Dieu de cette manière-là, et puis on tourne un petit peu, la lumière fait un autre reflet. Voilà ce qui se passe quand on cherche Dieu de tout notre cœur. Il y a un feu qui est là dans notre cœur pour découvrir encore davantage, contempler la magnificence, admirer le Saint-Temple de notre Seigneur. Et regardez le résultat, au verset 5, il est dit, la bénédiction, elle tombe là, quand on fait ça. Il me protégera dans son tabernacle. Au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Quand c'est que vous cherchez Dieu? Est-ce que vous attendez le jour du malheur pour chercher Dieu? Des fois, ça arrive. On attend qu'il y ait le problème, on attend qu'il y ait le combat pour commencer à chercher Dieu vraiment. Et on a raison de le faire dans ce moment-là, mais on a raison de le faire avant. Est-ce que vous achetez un extincteur le jour où il y a le feu? Comprenez? Il faut anticiper. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu est celui qui, qui veut nous préparer à affronter l'épreuve. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul quand il nous parle de l'armure justement. Est-ce qu'il dit « Attendez que le jour mauvais arrive pour pouvoir vous revêtir de l'armure ». Revêtez ! Ça veut dire présentement, aujourd'hui, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon quand il y aura le jour mauvais justement. Tenir bon face à toutes les ruses de l'adversaire. Il nous faut, jour après jour, veiller sur notre communion afin que Dieu puisse nous déverser dans notre cœur cette paix qui va faire que nous serons dans un havre de paix malgré le tonnerre et le tremblement qu'il y a tout autour. Quelle grâce de trouver dans la tourmente un havre de paix. Et ça, c'est la promesse de Dieu pour chacun de nous. Simplement, il nous faut venir avec vérité. Et il nous faut travailler. Ça demande un effort. Si tous les jours, je dis, moi, je veux consacrer quelques minutes à chercher Dieu. Une heure peut-être à chercher Dieu. Ça demande un effort de faire taire tel ou tel problème, tel ou tel souci, et puis de dire « Seigneur, je me consacre à toi ». Mais combien c'est bon, combien ça rapporte, spirituellement parlant, parce que c'est Dieu qui nous visite de cette manière-là. « J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » Avant que la difficulté soit même arrivée, David, il est déjà en train de penser à la louange qu'il va donner à Dieu. Combien c'est merveilleux quand on est capable même de chanter alors qu'on est au beau milieu de la tourmente. Seigneur, je veux te louer parce que je sais que tu es fidèle. Je ne sais pas si ce matin c'est ce que vous avez fait, j'espère. Si vous traversez l'épreuve et vous avez chanté ces chants, Seigneur, je veux t'adorer. Mon seul abri, c'est toi. Et alors que l'on déclare ses paroles par la foi, ben le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Quand on chérit en tout cas sa communion avec Dieu, notre confiance grandit dans les batailles. Mais quand on choisit aussi de marcher dans la consécration, quand on choisit d'affecter notre vie au service de Dieu, c'est pas que les pasteurs qui doivent être consacrés, c'est pas que les pasteurs qui doivent se mettre au service de Dieu, mais c'est chacun d'entre nous, nous devons nous mettre au service auquel Dieu nous appelle. Et c'est ça la consécration, c'est affecter au service de Dieu une personne, une chose qui entre dans la catégorie du sacré. Littéralement, c'est ça. Et la vie avec Dieu, le service de Dieu, c'est sacré. Vous savez que nous sommes tous appelés des saints. La Bible nous appelle saints. Dieu nous regarde et nous voit saints. Mais par contre, nous devons marcher dans la sanctification, dans les progrès qui sont évidents pour tous. Et comment est-ce que nous pouvons nous consacrer davantage? David est en train de nous dire ça. Et au verset 7, il dit « Écoute, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, exauce-moi ». La consécration se manifeste par une vie de prière vraie, authentique, instante, comme on disait vendredi. Nous avons le droit et nous avons même le devoir de faire connaître nos besoins à Dieu. Et David était dans ce moment-là où il dit « Seigneur, exauce-moi, voilà, tu vois le problème, Seigneur, réponds-moi ». On a besoin de faire monter vers Dieu des supplications et de faire connaître nos besoins au Seigneur. C'est même un ordre qui nous est donné dans sa parole. Mais si on se contente d'une vie de prière où on fait que demander à Dieu, on passe à côté de ce qu'il veut pour nous. Le verset 8 nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. » Quand est-ce la dernière fois où vous avez entendu Dieu parler à votre cœur? Peut-être c'est déjà ce matin, au travers des chants, au travers d'une prière, d'une louange. Peut-être ça remonte à quelques semaines, quelques mois. Peut-être, malheureusement, ça remonte à des années en arrière où votre cœur a dit de la part de Dieu, cherche-moi. Et nous devons aller dans ce moment de communion avec le Seigneur où nous lui adressons notre prière, mais aussi nous le laissons parler. Ce matin, est-ce que vous voulez dire à Dieu, Seigneur, parle-moi, dis-moi ce qui ne va pas, montre-moi. En tout cas, quand David a entendu ça dans ton cœur, mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Regardez sa réponse. Je cherche ta face. Il n'a pas attendu 150 ans en disant, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi? Non, il s'est levé, il a dit, je cherche ta face. Et alors qu'il a commencé à chercher sa face, il a dit au verset 9, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Oui, parce que quand on cherche Dieu, alors Dieu est en train de nous révéler les choses qui ne vont pas dans notre vie. Mais c'est comme ça qu'on fait des progrès. Si Dieu nous disait toujours « tout va bien, tu es parfait, tu es saint, tu es merveilleux, t'as pas besoin de faire de progrès », qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien, on mettrait les mains dans les poches et on attendrait que la vie passe comme ça. Mais Dieu nous invite à marcher dans la consécration, à aller de l'avant. Ça ne veut pas dire faire une course rapide, mais pas après pas, progrès après progrès. C'est ça la consécration. Le Seigneur nous invite à faire des progrès. Et si nous le faisons, alors nous montrons à Dieu que nous sommes en train de nous consacrer et nous vivons dans la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur va nous accorder sa victoire. Éternel, au verset 11, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Nous on dirait à cause de mes batailles, à cause de mes ennemis, Seigneur, délivre-moi. David, il dit pas ça. À cause de mes ennemis, Seigneur, permets-moi d'aller plus loin. Permets-moi d'avancer. Il a compris que s'il avance, s'il va de l'avant, c'est pour ça que j'ai pris ce chant, je vais de l'avant avec toi, mais c'est comme ça que je suis victorieux en Jésus. Mais si j'attends que les choses se passent, si je suis indifférent à ce que le Seigneur me dit, si j'écoute pas, et si je laisse pas l'Esprit me montrer qu'il y a quelque chose qui s'interpose entre Dieu et moi, David, c'est ce qui s'est passé, il dit « ne me cache point ta face ». Il a réalisé qu'il y avait quelque chose qui était là qui pouvait le bloquer. « Seigneur, pardonne-moi cela. Je veux régler, je veux qu'il n'y ait aucune ombre dans ta présence, afin que je puisse aller de l'avant. » La consécration se manifeste par nos progrès. Je lisais ce matin un article qui dit « À Rio, les Jamaïcains ont célébré hier la consécration de leur héros Usain Bolt. » Vous avez entendu parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est resté les mains dans les poches à regarder la course du 200 mètres? Ben non, parce que tout le monde attendait sa consécration, parce qu'il allait courir. Et c'est parce qu'il allait remporter les 3 médailles, c'est ce qu'il a fait. Il a remporté la course. Le Seigneur ne nous demande pas de nous mettre aux 100 mètres, parce que ça serait compliqué pour moi, je parle pour moi là. Mais le Seigneur nous demande de marcher de progrès en progrès, de faire la différence, de que les gens puissent se rendre compte qu'il y a une différence entre les moments où nous le cherchons et les moments où nous ne le cherchons pas, qu'ils voient qu'il y a dans notre vie que nous sommes de plus en plus patients, que nous sommes de plus en plus miséricordieux, que nous sommes de plus en plus aimants, bienveillants, que les gens se rendent compte qu'il y a des progrès dans notre vie. Moi, je connais des personnes, des chrétiens, ça fait peut-être 20 ou 30 ans qu'ils vont dans l'église, leur vie n'a pas changé du tout. Et quand on creuse un petit peu, eh bien on se rend compte qu'ils n'ont pas de communion. Ils ne veillent pas. Ils ne cherchent pas à faire de progrès. Mais on est dans un monde qui nous tire en arrière. Et si on ne va pas de l'avant, on va en arrière. Mais par la foi, nous pouvons avancer. Par la foi, nous pouvons marcher avec le Seigneur. Et ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que Dieu nous donne sa faveur. Je termine avec ces deux derniers versets, versets 13 et 14. À un moment donné, David a fait ce chant merveilleux sur la confiance, qu'il n'a pas peur, et puis pourtant, il y a une pensée qui est là. « Mais si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ?» Et il y a trois petits points qu'on pourrait dire, « Mais quelle catastrophe ça serait si on n'avait aucune certitude que la bonté de Dieu est immense ?» Heureusement, c'est pas le cas. Et des fois, on a besoin de le rappeler à notre âme. C'est ce que fait David. David le rappelle à notre âme, mais il nous le rappelle à nous, à notre cœur. Espère en l'Éternel, que ta confiance se place en l'Éternel, pas dans tes propres forces. Que tu puisses devenir quelqu'un qui marche avec intégrité. Fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que vous voulez que votre confiance puisse devenir tellement forte que peu importe les batailles et les combats qu'il y a autour, vous soyez toujours dans la paix? Eh bien, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a prévu, et c'est ce qu'il veut vous donner ce matin, c'est ce qu'il veut nous donner à chacun de nous ce matin. Alors simplement, soyons pleins de conviction, chérissons notre communion avec Dieu, et marchons dans cette consécration de progrès en progrès, pour voir la main de Dieu se poser sur nos vies. Amen.